9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
À votre santé sur Beurre FM et tous les jours, on prend soin de vous. Steve est là aujourd'hui. Comment ça va, Steve?
Bamba, Claude. Le Ramazi.
Ça, ça veut dire qu'il va bien. J'ai traduit pour tous ceux qui nous écoutent.
Exactement. En jamaïcain, pour ceux qui connaissent le reggae, le dancehall, ça veut dire vraiment on passe un agréable moment.
Spécialiste en chirurgie esthétique des émotions et auteur de Karma Sutra en poche chez Pocket.
En poche, ouais.
C'est moins cher. Vous gagnerez moins d'argent, Steve, pour une fois.
Bah, on est dans les aéroports, on est dans les Leclerc, on est vraiment partout maintenant. Voilà, on s'immisce, on s'infiltre comme l'eau.
Fanny Nussbaum est avec nous aujourd'hui. Bonjour, Fanny. Vous savez, parfois, quand on a la stéréo, c'est très très compliqué. Fanny, docteur en psychologie, voyez comment ça finit, et voilà. Chercheuse en neurosciences à l'université de Lyon. Vous êtes là pour nous parler de votre nouveau livre qui s'appelle « Le cerveau sous hypnose, libérer votre intelligence et votre imagination », dans une collection santé d'ailleurs. Hein.
Oui, chez la collection dite 33, chez Humaine Science.
Vous avez oublié quelque chose, Philippe? À Vienne, prix du meilleur jeune chercheur en hypnose scientifique au congrès. Attendez, je reprends mon souffle, parce que le truc laisse tomber. Faut être Eminem pour le dire sans respirer. Jeune chercheur en hypnose scientifique au congrès annuel de l'European Society of Hypnosis, bro.
Mais où vous avez trouvé ça?
C'est dans votre livre.
C'est dans le livre. Faut lire les petites lignes, les interlignes. Nous, on lit tout.
Exact.
On lit.
Oui, j'ai mis les références.
Ouais.
C'était quel sujet? Vous vous souvenez de votre sujet de...
Ah bah oui, c'était mon sujet de thèse en fait dont j'ai parlé à l'époque, et c'était on a fait une comparaison entre deux types d'hypnose et dans deux types d'états. Donc on a fait une suggestion directe et une suggestion indirecte, mais on verra après ce que c'est, et tout ça à l'état d'éveil et à l'état d'hypnose. Et par tomographie par émission de positons, donc par imagerie cérébrale.
Il y a un sujet dont vous parliez dans votre précédent livre et dont vous reparlez ici, qui est très 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 intéressant, et beaucoup de gens ne connaissent pas ce mot, la philocognition. What?
Oui, la philocognition, c'est ce qui vous touche tous les deux, Philippe et vous.
Je savais que j'étais touché déjà par pas mal de trucs, mais j'ai un nouveau truc.
Touché par la grâce de la philocognition.
Alors,
aussi.
Dites-moi plus, parce que là, je savais pas que j'étais philocognitif.
Ah ouais, je n'ai aucun doute là-dessus. Alors, la philocognition, c'est le fait d'avoir un besoin éperdu de penser en permanence, de tout penser, de tout réfléchir, de réfléchir le monde 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc, oui, je crois, pour vous avoir entendu plusieurs fois que vous êtes touché par ça.
Mais alors,
c'est ce qu'on appelait autrefois les surdoués précoces au potentiel.
Ah d'accord, ok. Mais donc je suis surdoué précoce ou au potentiel?
Vous êtes philocognitif.
Ok, c'est la famille en fait. Ok, c'est comme les canidés, comme tout ça, c'est une famille. Et puis après, dedans, t'as les chiens loups, t'as les Doberman, t'as tout ça.
Non, c'est parce que les termes qu'on employait autrefois, les surdoués précoces, zèbres au potentiel, etc., je trouvais, et on était beaucoup à trouver qu'ils n'étaient pas appropriés, parce que surdoué, ça parle d'un don plutôt à la naissance qui est immuable, etc.
HP, au potentiel.
Au potentiel.
Zèbre.
Au potentiel, c'est quoi le défaut? Parce que là, vous avez donné le défaut de surdoué. Au potentiel, serait quoi le défaut, par exemple?
Au potentiel, c'est déjà de dire que on est tous au potentiel de quelque chose. Donc, en soi, il y a peut-être un super sportif parmi nous, il est au potentiel de sport. Donc, voilà, ça veut pas dire grand-chose au potentiel. Alors après, on va dire au potentiel intellectuel, ok, mais on parle de quelque chose qui est en puissance et qui peut bouger. Donc, philocognitif, je trouvais que c'était vraiment quelque chose qui disait... philo qui aime, le préfixe philo qui aime, qui investit beaucoup, et la cognition, la pensée, je trouvais que c'était assez simple, pas très sexy, mais assez simple.
Ok.
Et puis, au potentiel, quand on dit ça, déjà, on parle de quelque chose qui est supérieur, et puis aussi, je trouvais que quelqu'un, par exemple, si vous pensez à, je sais pas, Albert Einstein, Stephen Hawking...
Mais oui, on dit souvent qu'ils sont Asperger, je crois, non?
Alors pas
spécialement.
Non, on l'a. Non, même Stephen Hawking, on n'a jamais dit ça.
D'accord, ok.
Que pas Albert Einstein.
Pas Albert Einstein, ok.
Non. Albert Einstein est considéré comme un génie, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, c'était un philocognitif. Il y a pas de doute. Son livre, Comment je vois le monde. C'est vraiment de la philosophie, quoi. Et Et en fait, ces gens-là, de dire que ces gens sont au potentiel, vous voyez, je trouve ça, c'est un peu ridicule. Il a du potentiel, ce gars-là. Donc, quand on parle de ce potentiel, je trouve que ça va encore bien pour les enfants de dire au potentiel, même intellectuel, pour un enfant, mais pour un adulte, surtout qui a réussi à transformer ce potentiel, je crois que c'est pas utile. Alors que philo-cognitif, ça va pour tout le monde.
Et vous en parlez dans le livre, justement, parce que vous dites que je pense beaucoup, mais moi, j'ai l'impression de pas penser consciemment, en fait. Je pense inconsciemment, en fait. Je pose des questions et je les mets comme une graine et je n'y réfléchis pas. Et un jour, je suis dans un sauna ou je suis dans une partouze intellectuelle avec Philippe. Voilà, on discute avec des gens très intéressants, etc. Et à un moment, j'ai un pop-corn comme ça qui est dans le micro-ondes. Et vous parlez du système 1, du système 2, de l'inconscient cognitif, de la puissance, de ça. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Parce que beaucoup de gens croient que plus on pense, en fait, plus... et non, en fait.
Exactement. En fait, cette ère de l'esprit critique, de la raison, d'éviter les biais cognitifs m'agace profondément. Et en fait, donc en effet, on a ces deux systèmes. Alors, c'est Daniel Kahneman, prix Nobel de l'économie 2002, mais qui est un psychologue. Chercher l'erreur, je ne sais pas.
Ou pas, ou pas. Hein,
ou pas, ouais. Ou pas, voilà. comme je dis dans mon spectacle.
Il a voulu se faire kiffer.
Si on est comme ça, moi je suis
psychologue. Il est comme vous, il a fait des formations.
C'est ça, il s'est diversifié, il a dit « Ah, je vais faire un peu d'économie » et finalement, ça lui a bien réussi, et prix Nobel, pam. Et donc, Daniel Kahneman, il nous propose système 1, système 2. Il nous dit que on a deux modes de pensée, deux systèmes de pensée. Le premier système qui est un système plutôt inconscient et qui va fonctionner par analogie, c'est celui de fuite ou combat, hein, celui qui va nous dire très rapidement comment réagir. Parce qu'il faut savoir que le cerveau, son boulot, c'est de faire des probabilités en permanence. Donc il fait ses probabilités et il nous dit la plupart du temps très rapidement comment réagir. Et soit on l'écoute, soit on l'écoute pas. Et le système 2, c'est un système beaucoup plus dans la réflexion, dans le labeur, dans quelque chose de très analytique, de très impliqué, mais qui consomme beaucoup d'énergie pour finalement une efficacité qui, à mon sens, est discutable. Et donc, le système 1, aujourd'hui, on a appris, peut-être depuis Descartes, à cause de Descartes, on a appris à ne plus trop l'écouter parce que ça ressemble à quelque chose d'ésotérique, de magique. Et je crois qu'en fait, ce que vous décrivez, Steve, quand vous dites, moi, j'attends que ça émerge. Et puis,
je pense très peu, en fait.
Voilà. Ouais. En fait, je crois que vous réfléchissez beaucoup, mais pas dans le sens de la réflexion laborieuse, que vous pensez à plein de choses toute la journée, mais vous vous laissez habiter par ces pensées jusqu'à ce qu'à un moment, quelque chose émerge. Et ça, c'est très système 1. Et normalement, les statistiques sont très bonnes pour quelqu'un qui sait écouter son système 1 et qui sait écouter son intuition, en fait, parce que c'est rien d'autre que ça.
Oui.
Le temps ne change rien à l'affaire. Quand on est con, on est con.
Je peux vous le chanter, ça.
Bah alors, Fanny, mais qu'est-ce qui se passe
Fanny, qu'est-ce qui se passe?
Et après, quand j'ai vu Georges Brassens, j'ai dit, ouais. Ah non, c'est le grand Georges. C'est le grand Georges.
Voilà. Et on peut le chanter, alors?
Oui, bien sûr. Ouais. Le temps ne fait rien à l'affaire quand on est con.
On est con.
Voilà, ouais, je ne vais pas plus loin. Mais voilà, mais c'était Georges.
C'était Georges. Et oui, et je dis, en fait, si, le temps fait quelque chose à l'affaire. Mm. Et ça, c'est l'état d'intelligence. En fait, mon modèle, c'est de dire que l'intelligence n'est pas une capacité, n'est pas quelque chose qu'on
c'est
a.
C'est un état.
C'est un
exactement.
État.
Exactement.
Et ça, quand vous avez dit ça.
Vous avez tout dit.
Non. Ça a été compliqué à faire passer comme idée.
Ah bah oui, encore aujourd'hui.
Non, là, il faut quand même expliquer que quand vous avez émis cette hypothèse, il a fallu la défendre.
Oui.
Et vous avez proposé une nouvelle conception de l'intelligence en trois étages.
Oui.
Et là, ils sont tombés dessus.
Bam.
Les bien-pensants, les nomo-normatifs, là, comment on appelle ça,
les
normopensants, on va dire.
Voilà, ou neurotypiques.
Neurotypiques, voilà.
Ils n'ont pas aimé votre définition de l'intelligence.
Eh bien non, parce que alors maintenant ça commence un peu à bouger, mais c'est vrai que je m'en suis pris un peu plein à la figure parce que mais comment c'est pas possible, vous nous dites que Nabila est plus intelligente que nous alors que nous on a 150 de QI et Nabila serait plus intelligente que nous. Ben ouais gars, parce que pourquoi elle est plus intelligente que toi? Parce que elle est au corps à corps avec la réalité.
Ouais. Et elle arrive à faire du cash là où tout le monde dit c'est la crise et tout, ben elle a fait du cash.
Et déjà
ouais, concrètement.
Exactement,
voilà.
Et puis surtout que comme je le dis en ce moment...
Et gros big up à Nabila, voilà, qui vient d'acheter une maison d'ailleurs, très belle maison à 3 millions d'euros, et tout le monde a la haine, etc.
C'est
bah
vrai.
Ouais, mais mec, c'est la crise, a fait du cash.
Je savais ça, pas, et ben bravo Nabila.
Voilà.
Et je prends souvent cet exemple de son en fait, c'est devenu un slogan, elle a marqué toute une génération avec ça.
Ouais.
Mais quoi,
tous les gens bêtes achetaient une maison à 3 millions d'euros... Beaucoup de gens voudraient avoir la stupidité de Nabila, moi j'aimerais
exactement.
Dire.
Exactement. Ouais. Et donc, en fait, ce que je dis, c'est que l'intelligence est un état, qu'on a tous des capacités, que chacun a une capacité un peu meilleure que celle de son voisin. Et bah, il se trouve que vous et moi, je crois qu'ici autour de la table, on a cette capacité supérieure aux autres, c'est vrai, ou à la plupart des gens, qui est celle de la réflexion. Et donc, c'est la philocognition. Mais mon fils est sportif de haut niveau, et lui il a cette capacité en plus que moi j'ai pas. Ici, bah, je ne connais pas les autres personnes qui sont là, mais voilà, j'imagine que vous avez quelque chose que nous on n'a pas et qui est meilleur. On a tous une capacité meilleure que celle de son voisin, mais parfois on va être en état de la montrer, et là on est en état d'intelligence. En effet, il y a ces trois phases.
C'est vrai, vous parlez des états, il y a certains contextes où on peut pas. Ouais.
Alors il y a l'antiphase, et moi j'ai. Enfin voilà. L'antiphase.
C'est ça, l'antiphase.
Phase 1, donc.
Voilà, là, on est à l'intelligence minimale, on n'y arrive pas. Comme je dis souvent, avec mes super capacités de raisonnement de grand docteur, il y a des moments où je suis très très con, où j'arrive pas à produire un raisonnement digne de ce nom, où je suis incapable de répondre, ma pensée ne vient pas, alors que je l'ai pas perdue en deux secondes. Cette capacité, elle est toujours là. Mais à ce moment-là, elle ne s'exprime pas. Donc là, je suis en antiphase.
Moi, ça me fait ça quand je suis face à un con. J'arrive plus. Il y a trop de travail en fait, j'abandonne. J'abandonne. Ouais.
C'est ça. Ouais. Mais c'est un abandon même mental.
Ah ouais, j'abandonne. Ouais.
Et oui, ouais. Exactement. Et c'est comme un joueur de tennis qui se retrouve devant un professionnel, qui se retrouve devant un mauvais joueur de tennis. Ben du coup, son jeu est beaucoup moins bon.
Ouais.
En effet.
Alors l'antiphase, la phase, la deuxième, deuxième étage.
La phase ou la compétence. Quand on est en compétence, la plupart d'entre nous, on est plutôt en état correct d'intelligence.
Quand on discute ensemble, là, par exemple, etc.
Là, on est plutôt en compétence, voilà. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de produire le truc révolutionnaire.
Non.
Mais en tout cas, c'est
après la pub, ça.
Le truc révolutionnaire, c'est la phase 3.
C'est après.
Voilà.
Exactement. Et donc là. Cet état, la plupart d'entre nous, on est généralement en compétence et on peut montrer de façon plutôt correcte ses capacités. Et le Graal, c'est la performance. Et quand on est en performance ou en résonance, bien à ce moment-là, on sent que tout s'ouvre à soi, que la mer s'ouvre devant soi. Et là, on est dans cet état de flow dans la zone. Et à ce moment-là, tout déroule et on peut montrer vraiment la meilleure version de soi-même. Donc là, on est dans l'état d'intelligence ultime qui est la performance.
Juste, je reviens sur un point qui est très important pour moi et qui me tient à cœur, Philippe. Nabila. En fait, je crois que j'ai capté. C'est parce que les gens se pensent plus intelligents qu'elle et ils pensent qu'elle est conne. Et donc, puisqu'elle est conne, ils comprennent pas comment elle peut gagner plus d'argent que c'est ça qui les fait chier.
Mais ça, en plus,
parce que si elle était intelligente,
a montré que Nabila est dans le juste, parce que, enfin, alors, j'ai pas fait passer Nabila dans l'IRM, j'ai pas la chance de connaître cette jeune femme, mais on a fait, donc là, on a les premiers résultats. Normalement, je devrais pas les donner parce qu'on n'a pas.
Ah si, bah non, maintenant c'est trop tard.
Ouais.
Donnez les résultats.
Ah bah oui, mais j'allais dire, en fait, j'emmerde tout le monde, je les donne quand même.
C'est ça que j'adore.
Pardon, j'emmerde tout le monde, non, j'emmerde personne, ouais. J'aime tout le monde, mais je les donne si je veux.
Voilà,
quoi.
Exactement.
Et là, je veux. Et donc, ces résultats, ils sont super. On a fait passer 60 personnes dans l'IRM. On a cherché la performance pécuniaire, puisque c'est le plus simple pour nous pour un départ. Et donc, des personnes plus ou moins performantes, âgées de 25 à 55 ans, sur le plan pécuniaire. Et on a vu déjà que le QI, il n'y avait pas de différence significative entre les QI des uns et des autres, des plus performants sur le plan pécuniaire et des moins performants. Et deuxièmement, on a vu que les performants avaient un, une modularité cérébrale plus importante que les autres.
Bomboclat.
Voilà, un peu de publicité, le temps de réfléchir que ça monte au cerveau, et on va parler ce matin d'hypnose.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, on va parler d'hypnose, hein, un sujet qui parfois peut faire peur avec notre invité qui s'appelle Fanny Nussbaum. Steve est avec nous et je rappelle que votre livre s'appelle « Le cerveau sous hypnose, libérez votre intelligence et votre imagination ».
Alors dans le livre, vous dites « Au même titre que la douleur chronique est une forme négative d'auto-hypnose, la montée en intelligence, voire en performance, n'est autre qu'une auto-hypnose positive ». Expliquez-nous s'il vous plaît.
Oui, je pense qu'en fait, l'hypnose, c'est une histoire qu'on se raconte. Et en fait, toute notre vie, au bout du compte, c'est une histoire qu'on se raconte. Et si on a envie ou besoin de se dire qu'on est un Calimero, etc., ben il y a tout un univers qui vient avec, et avec cet univers Calimero, il y a
la victime, la victime dans le triangle de Cartman, ouais.
Et la souffrance, elle est réelle, c'est pas une souffrance feinte, mais en tout cas probablement qu'elle vient de ce background qui fait que peut-être ma maman s'est occupée de moi uniquement quand j'avais mal, quand je souffrais, et donc je vais reproduire ce comportement. Alors ça paraît directement comme ça, ça paraît comme ça un peu psychologie à la petite semaine, mais il y a vraiment des patterns comme ça qui reviennent. Et je pense que l'hypnose aide à être au contraire dans un état d'esprit beaucoup plus positif par rapport à soi-même, et à se raconter une autre histoire. Et en fait, Jeffrey Zeg, qui était le disciple numéro un de Milton Erickson, appelait l'hypnose le changement des lunettes perceptives. Et il disait que voilà, avec ça, on change pas la réalité, on change simplement ses lunettes par rapport à la réalité. On se raconte une autre histoire. Et en fait, on sait depuis la nuit des temps, depuis Aristote, depuis la rhétorique, toutes ces idées sur la rhétorique, que les mots et l'histoire qu'on se raconte vont transformer un individu.
Alors la manipulation, parce que comme certains le savent, je suis appelé le grand manipulateur ou le grand manipulateur. Philippe, d'ailleurs, c'est vous qui m'avez attribué ce...
Tueur.
Voilà. Ouais. Tueur, ça a été après.
C'est après.
Voilà.
Qu'on a vu les cadavres.
Exactement, tout à fait. Dans le placard, qui ont été ressortis, et dans le grenier.
Et moi, je les verrai.
Les placards, tout à fait. On les a installés à la morgue. Je les collectionne un par un. Et tout ce qui est haters, tout ça, je garde, je stocke tout.
C'est bien.
Et donc, j'ai vu, là, dans le livre, on amène donc le sujet à changer sur la base de ses propres représentations du monde que l'on manipule. Et vous dites, manipuler n'est pas toujours un terme péjoratif.
Et non? Non, en fait, là, quand on s'est habillés tous les trois ce matin, on avait en tête de manipuler, puisqu'on veut renvoyer une image de soi.
Waouh!
Eh ouais, vous avez voulu manipuler, Steve, votre environnement.
Ah non, mais moi, je manipule au quotidien. Je me lève le matin, je vais manipuler. Je veux dire, mais pour plein de gens, c'est négatif, c'est tout ça, voilà. Et non, donc, toutes les filles qui me critiquent sur ce truc de manipulation, en fait, quand elle s'habille le matin, elle-même manipule aussi, en fait.
Bien sûr. Si elles choisissent le pull vert plutôt que le pull rouge, elles sont dans la manipulation, puisque elles cherchent quelle image elles vont renvoyer d'elles-mêmes. Si aujourd'hui j'arrivais avec des petites lunettes, un tailleur noir hyper strict, etc., j'aurais envie de vous montrer de moi l'image du chercheur sérieux, etc. Là, je suis arrivée avec mon pantalon un peu funky. J'ai envie de vous montrer de moi cette image un peu plus fun. Mais tout ça, ça n'est que de la manipulation.
D'accord, mais votre image a beaucoup changé ces dernières années, Fanny.
Oui.
Vous vous rendez compte?
Ah oui. Oui, tout à fait.
Que vous êtes lâchée, par exemple.
Oui, ouais, vraiment, je suis ravie.
Elle a été et lynchée et lâchée. Je veux dire, elle est restée dans le même spectre, Philippe. Elle a changé juste une lettre.
Ouais.
Et plus on l'a lynchée, plus elle s'est lâchée, en fait. Elle s'est autorisée. Elle a dit aujourd'hui, je vous emmerde. On a vu dans le livre, le temps ne change rien à faire. Quand on est con, on est con. On voit une évolution, quelque chose.
Je crois que je suis devenue de plus en plus authentique, mais parce que en grandissant, on arrive à assumer un peu plus qui on est, à être plus. Si on a envie d'être plus rock'n'roll, comme c'est mon cas, et ben on le devient.
Mais donc la manipulation, parce que pour les gens, il y a le bien et le mal. Hein, ils n'arrivent pas du tout à faire. C'est bien ou c'est mal alors? Parce qu'il y a des gens, il faut cette case en fait finalement.
Oui, alors je ne sais pas quoi vous répondre. Est-ce que vous répondez drôlement en vous disant c'est très mal et ne recommencez plus ça, jamais? Mais c'est ça. En fait, alors, moi, vous savez que mon grand gourou après Steve, c'est Nietzsche.
Nietzsche, oui.
Et donc, Nietzsche, dans Par-delà le bien et le mal, il nous dit ça. Il nous dit qu'en fait, ou même un autre qui n'en parle pas de cette façon-là, mais j'ai adoré son livre, ses livres comme plein d'autres, c'est Harari, Sapiens et Homo Deus. Merveilleux. Et il nous dit qu'en fait, de tout temps, il y a toujours des religions. Et une religion, il l'emploie au sens large pour dire des... Vous me dites s'il faut que je me...
Non. Il voyait que j'allais démarrer sur une nouvelle question et il m'a juste dit calme-toi, je vais peut-être poser deux trois questions aussi, si tu peux fermer ta gueule un peu, ça m'arrangera, voilà. C'était juste ça voulait dire ça le doigt en fait. Que les gens ne verront pas à l'écran bien sûr, mais que j'ai très bien compris parce que voilà. Et une main, vous avez vu la main qui a failli me gifler, il m'a fait le regard comme ça du père avec la torgnole comme ça. Connard, ferme ta gueule. Vous avez vu, mais personne ne le verra à l'écran.
Je laisse parler la dame.
Exactement, voilà.
Donc Harari, il nous dit que tout est religion, qu'en fait la religion c'est une espèce de codes imaginaires qu'on a pour situer le bien et le mal. Et il nous dit, voilà, il y a eu la religion catholique, la religion musulmane, etc., qui nous disait où était le bien et le mal, et que la religion ambiante, aujourd'hui, c'est l'humanisme. Et que cet humanisme, il nous dit l'être humain, chaque vie compte, que l'être humain est ce qu'il y a de plus important, et gloire à l'humanité, etc. Et que c'est une religion comme une autre. Et donc, en effet, dans cette nouvelle religion qui est aujourd'hui qui a cours aujourd'hui le plus dans le monde, eh bien le bien et le mal, les limites du bien et du mal sont là.
C'est-à-dire c'est plus aussi binaire et manichéen quoi.
Si ça l'est tout autant, ça a changé. On place plus le bien et le mal pareil. Il y a cette idée de il faut que les gens aient leur libre arbitre, il faut respecter l'individualité de chacun, etc. Ce qui à mon sens peut se discuter, mais voilà, dès qu'il y a cette idée de vouloir transformer l'autre par soi, il y a cette idée de manipulation et c'est considéré comme mal. Mais pour moi, ça ne l'est pas.
Et moi, je voulais rester sur la manipulation. On associe souvent hypnose et manipulation.
Oui, tout à fait.
Est-ce que quand on est en état d'hypnose, on est plus facilement manipulable?
Alors, je vais vous donner une réponse que je donne très souvent. C'est, en fait, donnez-moi, s'il vous plaît, quelque chose que vous n'aimez pas consommer. Vraiment, un truc que vous n'aimez pas. Je sais pas.
Manger? Voilà, là-dessus, non.
Par exemple, le McDo.
Le McDo, ouais. Ok. Vous n'aimez pas le McDo. Si vous voyez passer en boucle des super pubs pour McDo, est-ce que ça va vous faire aller consommer du McDo?
Jamais.
Donc, en fait, l'hypnose, c'est la même chose. C'est que on va révéler en vous quelque chose que vous avez et qui ne s'exprime pas, mais on va pas vous transformer complètement.
Ah oui, vous donnez très bien l'exemple dans le livre Serré. Vous dites que si on ordonne à quelqu'un de faire quelque chose qui est vraiment contre nature, tout de suite, il se réveille, il sort de la transe et...
C'est ça. Ou alors, il peut même ne pas sortir de la transe, mais en tout cas, on va voir cette idée d'inconfort. Ouais, tout à fait.
Cette idée qu'on pourrait, sous hypnose, nous faire faire des choses qu'on ne voudrait pas faire.
Ouais, tout à fait. Et puis, il y a aussi des gens chez qui, alors ça c'est pour les réfractaires à l'hypnose, il y a ceux qui se disent on va me faire faire quelque chose qui, et là franchement aucun risque puisque c'est vraiment comme le McDo, c'est pas possible, on peut pas vous faire faire quelque chose que vous n'aimez pas ou que vous ne voulez pas, même si et pourtant la pub nous influence, on sait que la pub nous influence, il n'y a pas de doute, sinon on ne paierait pas des millions pour de la pub, et l'hypnose c'est pareil, ça fonctionne, sauf que on peut pas vous faire faire ce que vous voulez pas, donc ça c'est le premier truc. Et puis ensuite, il y a les gens qui sont réfractaires parce que ils n'arrivent pas à s'abandonner. Pour eux, c'est hyper difficile. Et ceux-là, ils vous disent, maintenant, je peux pas, quoi, entendre quelqu'un qui me parle et puis devoir lâcher prise, c'est pas possible. Et dans ce cas, il y a un truc qui est génial, qui est l'auto-hypnose. Il y a des gens qui fonctionnent super bien avec l'auto-hypnose et qui arrivent vraiment à là trouver leurs propres images.
Mais c'est quoi l'auto-hypnose?
L'auto-hypnose, c'est vrai que ça demande un petit apprentissage quand même, peut-être d'aller voir un hypnothérapeute une fois, deux fois, trois fois, mais pas plus, et qui va vous montrer le chemin pour arriver à être mieux, plus détendu dans votre corps, mais pas forcément, ça peut être aussi très dynamique, et puis à créer des visualisations, c'est-à-dire des images mentales qui vont être réparatrices ou qui vont être épanouissantes pour vous. Et à ce moment-là, une fois que vous avez le truc, c'est pas très compliqué, ça demande ça, simplement d'apprendre ça. Et une fois que vous avez le truc, et ben vous pouvez le faire tout seul.
Mmh. Ou hypnotiste.
Ou hypnotiste. Moi, je préfère hypnotiste, c'est vrai.
Oui, à hypnothérapeute. Hein.
Ouais, mais ça veut dire la même chose. Mais c'est vrai qu'hypnotiste, je trouve ça plus large. Il y a moins cette notion de soin. Et donc, c'est pas mal.
Mmh. À noter que les hypnotistes ne sont pas considérés comme des personnels de santé. Hein.
C'est ça. Et hypnothérapeute, oui, mais pas hypnotiste. Donc, en fait, on fait la même chose, mais dans un cadre hypnotiste, ça couvre tout le monde. On peut être un professionnel de santé et être dit hypnotiste, mais on ne peut pas être hypnothérapeute et faire autre chose que de la santé. Je ne sais pas si j'ai été très claire.
Si, c'est clair. Mais alors, pour tous ceux qui en ont fait un business, par exemple, vous dites que l'hypnose pour les addictions, ça ne marche pas beaucoup.
Non, c'est vrai. On n'a pas des résultats.
Alors, c'est pas des choses qu'on a l'habitude de lire.
Et ouais. Qu'on a l'habitude d'entendre.
Ouais. Non, c'est vrai, c'est assez étonnant. D'ailleurs, mon ami Jean Becchio, qui est aussi bien avant moi, un super ponte de l'hypnose, dit la même chose. C'est que pour l'instant, on n'a pas d'études probantes. Si vous voulez, l'hypnose, c'est un placebo. Le placebo.
Là aussi, quand vous dites ça, l'hypnose est un placebo, c'est.
Ça choque. Hein. J'osais pas le dire, Philippe.
C'est vrai, ça vous a choqué.
Ah non, je peux dire partout intellectuels, les cons, les trucs et tout ça. Mais quand vous avez dit placebo, j'ai dit oulala, on va être banni sur YouTube. Là, on va avoir
vrai,
une omerta.
Eh ben, ouais. On y va alors.
On y va, allons-y.
On y va.
L'hypnose est un placebo.
Et oui, l'hypnose est un placebo géant, mais c'est le placebo en chef. C'est vraiment essayer de construire une histoire qui va quand on met sa blouse blanche. Si je vous reçois avec ma blouse blanche, déjà.
On est dans la manipulation, on raconte une histoire.
Mais oui, ouais. Et donc c'est un placebo, c'est un effet placebo. Si je vous donne une petite pilule, toute petite, parce que souvent les petites pilules...
La pilule rouge.
Ça pourrait être la pilule rouge. Mais quand elles sont petites, les pilules, ça donne plus cet effet de puissance, contrairement à d'autres choses. Et c'est pas bien de dire ça. Et... Pardon, non, vous l'aviez non, pas, c'est, et c'est mieux.
Ah non, j'étais ailleurs. J'étais ailleurs.
Exactement, et vous pensez.
Mais j'ai l'impression d'avoir loupé un épisode, merde.
Non, parce qu'on
parle. On revient, rewind.
Rewind. C'était la couleur de la pilule qui a fait bugger Fanny. Et voilà.
La pilule rouge, ça faisait. La red pill, ça faisait référence à Matrix, il propose la pilule rouge ou la pilule bleue, en fait.
Voilà.
Donc vous êtes parti dans un univers et moi je suis parti dans un autre.
Vous aviez la blue pill, Fanny.
Non.
Bon. Dans un instant, Fanny va mettre Steve sous hypnose.
Exactement, tout à
après
fait.
Après la pub, c'est très radiophonique.
Après la pub,
qu'on va
je
faire.
Fais le chien, l'otari et loi.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Bon, je sais que les promesses, Steve, hein, vous avez promis avant la pub.
J'ai promis, tout à fait.
Ouais. Vous allez faire le bestiaire.
Il y a beaucoup de promesses que j'ai pas tenues, donc on les mettra à la longue liste de toutes les promesses
les
que je n'ai pas tenues.
Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent.
Exactement, tout à fait.
Si je dis à Fanny, qui est là avec nous ce matin, que j'ai trouvé son livre très intéressant, comment vous allez le prendre?
Je suis pas contente. Enfin, maintenant, j'arrive à faire avec le très intéressant, mais c'est mon minimum syndical. Mais normalement, j'ai envie de créer un effet waouh. Et donc, oui, très intéressant. J'ai dû m'habituer à ce que ça soit mon minimum syndical. Et quand on me dit c'est très intéressant, en général, j'entends OK, t'as fait juste le job.
Et ce serait quoi le mot adéquat? Waouh.
Ouais, waouh. C'était divin, c'était merveilleux. Vous avez changé ma vie. Là, je dis OK, j'ai fait mon job.
En fait, vous aimeriez que les gens soient dans une forme de perceptude par rapport à votre livre.
C'est ça. C'est extraordinaire. Voilà, la perceptude, c'est un terme qui est...
Vous avez vu, là, j'ai eu votre waouh. Vous êtes extraordinaire. Hein. Là, on a réussi. On a bossé, Philippe. Hein. T'as vu, on a réussi à avoir le waouh de Fanny. Hein.
Et l'émission n'est pas terminée.
Terminée. Il nous reste encore 7 minutes.
Vous l'aviez gagné déjà avant même qu'on commence l'émission. C'est gentil. Mais waouh, c'était trop facile.
C'est gentil.
Mais oui, la perceptude, donc c'est François Roustan qui a proposé ce terme et pour parler de ce moment où justement on sent, on est dans ce sentiment océanique et on sent l'univers qui est là et c'est souvent en état d'hypnose, on est comme ça.
Vous dites dans le livre, hein, parce que le passage je l'ai trouvé magnifique, le sentiment peut alors être celui décrit par François Roustan comme la perceptude, le mot il est incroyable, cette sorte de conscience de soi reliée au grand tout que Romain Rolland Roland appelle de son côté le sentiment océanique. En outre, cette expérience de dissociation semble être un marqueur fondamental de la suggestibilité, hypnotisabilité des sujets. Ouais, cette espèce d'état de flow, de, en alpha au niveau du cerveau, etc. Quoi.
C'est ça. Généralement en alpha, il y a, bon, il y a d'autres études qui disent un peu différemment, mais oui, généralement en alpha, et on est dans cette sorte de conscience du tout, et on l'a tous vécu ce moment-là, de se sentir vraiment connecté à l'univers sans forcément qu'il y ait de composante ésotérique à ça. Hein. Mmh. Et dans ces moments où on se sent connecté, on sent que les choses sont plus faciles, que la vie est plus facile. Ouais.
Alors, on peut parler un peu de... Parce que moi, depuis des années, j'invite les gens qui font de la lecture rapide à se mettre en alpha. Vous en parlez beaucoup dans le livre. Est-ce qu'il y a des études scientifiques? Je vais vous parler aussi des musiques en 432 Hz. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Oui, il y a des rythmes comme ça qui nous mettent dans une sorte de petite transe, et donc les 432 Hz, vraiment c'est assez connu pour ça. Si vous regardez, je sais pas si je peux dire une marque, le truc de musique, Spotify, si vous regardez sur Spotify, vous tapez musique 432 Hz, vraiment il y a une liste comme ça, donc vraiment c'est quelque chose qui est très connu, et ça nous met dans ce mood, comme on dit, où on est bien raccord avec l'univers.
Et je me permets de donner deux choses que vous citez dans votre livre que je ne connaissais pas et que j'ai découvert. Viva la Vida de Coldplay, ouais, ou Smooth de Carlos Santana, ouais, qui ont, elles expliquaient qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces deux chansons.
Ce sont ces fameuses musiques, ça fait partie des chansons à 432 Hz qui nous mettent dedans, comme on dit.
Donc ils les ont conçues sciemment en les mettant...
Je pense qu'à l'époque, ouais, on n'en parlait pas beaucoup, ouais, mais bon...
Je crois pas, mais je crois que les gens ont découvert que c'était une musique à 432 Hz, et donc... ça fait partie des playlists à écouter.
D'accord. Non, parce que s'il y a toujours les Illuminatis qui allaient dire que Coldplay et Carlos Santana savaient qu'on fait exprès, qu'ils le savaient avant les autres. Exactement, voilà. Donc je voulais anticiper, d'où la question.
Okay.
Je voudrais qu'on vienne sur un mot, c'est le mot tunnelisé.
Oui.
Bon, qu'est-ce que ça veut dire tunnelisé par rapport au cerveau?
Alors moi je parle de la tunnelisation attentionnelle, c'est ça, c'est ce moment où, vous savez, on est focus vraiment sur quelque chose de particulier, nos pensées deviennent comme une sorte d'obsession, et on voit plus rien autour, on est à l'état d'éveil, etc. Mais quand vous êtes en voiture et que tout d'un coup votre pensée se met à vagabonder, que vous êtes sur un trajet automatique, vous êtes dans une tunnelisation attentionnelle parce que votre attention est complètement sur vos pensées alors que vous continuez à conduire et que vous pouvez appuyer sur la pédale de frein c'est si le feu passe au rouge, etc. Et donc, voilà, la tunnelisation attentionnelle, c'est être complètement happé par ses pensées, ou complètement, pas à 100%, mais beaucoup happé par ses pensées, et en même temps être présent au monde.
Et continuer à conduire. Alors vous êtes une experte en hypnose, ça a commencé très jeune, et après vous vous êtes formée.
C'est ça, j'ai commencé l'hypnose quand j'avais, je ne sais pas, 8, 9, 10 ans, je ne saurais pas dire exactement.
Les petits ateliers.
Comment ?
Les petits ateliers quand vous étiez jeune, où vous n'êtes pas rendu compte qu'en fait c'était de l'hypnose. Ouais.
Je m'en suis rendu compte plus tard, c'est une dame qui s'appelait Malou, que j'embrasse si elle nous entend, et qui proposait des cours pour les ados qu'elle appelait la relax. Et puis moi je vivais des choses un peu tumultueuses, puis je posais des questions toute la journée, j'étais un peu chiante comme maintenant, mais peut-être encore pire en tant que petite fille. Et donc un jour Malou a dit à mes parents, et si vous la faisiez venir dans mon groupe. J'arrête pas de dire, ça a changé ma vie, mais oui, là vraiment ça, je crois que ça a donné une orientation à ma vie incroyable, parce que Malou nous expliquait, d'abord il y avait ce moment là où elle nous expliquait la force de la pensée, que crée une pensée, puis elle nous donnait des mantras, alors il y avait protégé, paisible et positif, alors on devait écrire sur la salle de bain, la fenêtre de la vitre de la salle de bain, protégé, paisible et positif, et voilà, il y avait plein de choses comme ça. Et puis ensuite, on se mettait, on avait des transats tous, on baissait le siège, et là, on partait dans un voyage magnifique avec je me souviens que c'était une musique de Vangelis à l'époque, parti.
Ça rejoint Santana finalement.
C'est vrai, ouais, tout à fait.
Même génération. Et finalement, quelle différence vous faites? Alors aujourd'hui, on parle de méditation entre L'hypnose, la méditation, la sophrologie, c'est la même chose ?
Pour moi, c'est la même chose. Bonnet, blanc, blanc, bonnet, c'est les mêmes mécanismes. C'est juste que l'intention est différente. Si on fait de la sophrologie, c'est plutôt pour de la détente, du développement personnel. Si on fait de la méditation, ça a une connotation philosophique. Si on fait de l'hypnose, ça peut avoir une connotation thérapeutique ou de spectacle. Mais au bout du compte, les mécanismes sont les mêmes, c'est-à-dire de la suggestion ou de l'autosuggestion parfois, et pour en vue d'une sorte de changement de l'histoire qu'on se raconte.
Il y a un autre joli mot dans le livre, pas qu'un seul, l'endocongruence.
Ouais, ça c'est inventé pendant ma thèse, ça, ouais. L'endocongruence. L'endocongruence, c'est le fait d'être raccord avec soi-même, d'être aligné, d'être congruent avec soi-même.
Mais la congruence, c'est déjà de l'endo, non? Quand on est congruent, on n'est pas forcément endo.
Ben, on peut être congruent avec l'environnement. Alors c'est vrai, mais vous avez raison.
Quand on dit c'est congru, ça veut dire qu'on est aligné finalement.
Ben, c'est vrai. En fait, j'ai trouvé un mot qui était complètement fumeux.
C'est vous ça. Non. Vous aimez les mots.
Oui, j'aime bien inventer des choses et parfois ça touche juste. Mais là, vous me faites remarquer quelque chose d'assez juste. Endocongruence, c'est un pléonasme.
Vous avez trop travaillé, Stéphane.
Mais quand vous dites aujourd'hui, c'est un pléonasme aussi, et pourtant vous l'employez.
Oui, il y a aussi au jour d'aujourd'hui,
c'est un double pléonasme. Voilà. Bien.
Je vais vous laisser entre.
On est bon pour aller à Slam.
Vous êtes des bons là.
On va aller à Slam, Fanny.
Ouais, c'est vrai.
Vous faites la différence entre l'hypnose et l'état hypnotique. Vous nous expliquez la différence.
Mais en fait, l'état hypnotique, c'est un état dans lequel on peut tous se trouver. Je parlais de la voiture tout à l'heure, ou alors quand on est devant un feu de cheminée, que ça devient un peu... l'esprit se met à vagabonder. C'est une sorte de petite transe du quotidien. On peut tous trouver cet état. En revanche, vraiment une hypnose dans sa globalité, il y a d'abord cette porte d'entrée. C'est la porte d'entrée, la transe. C'est arriver à se mettre dans un état qui va permettre d'accepter mieux les suggestions, d'être plus souple par rapport à ces suggestions. Et ensuite, une fois qu'on a ouvert une porte, si on arrête là, et qu'en général on dit j'ai vécu une hypnose parce que j'étais dans tel état. Mais non, l'état, c'est simplement une porte qu'on a ouverte. Mais si après il ne se passe rien, il n'y aura pas d'hypnose. Donc l'hypnose complète, c'est le fait qu'ensuite il y ait une suggestion ou une autosuggestion. Donc qu'on suggère un changement. La douleur. On a parlé de la douleur tout à l'heure. Je me sens mieux, je souffre moins. Ça peut être un type de suggestion. Ou alors, mon examen va bien se passer demain. Je suis fort, je suis puissant, etc. Allusion à la petite pilule bleue.
Tout à fait. Et j'ai découvert avec stupeur que vous parlez de moi dans le livre.
Mais oui.
Qu'est-ce qui se passe? Vous vous êtes lâché d'abord. Le temps ne change rien à faire quand on est con et vous finissez par Steve.
Vous dites à Fanny qu'elle parle de vous dans son livre. Vous êtes gonflé quand même.
Pourquoi?
Parce que c'est un peu.
Ça manque d'élégance.
Ouais,
enfin.
Mais si
vous auto-citez,
si j'étais élégant, ça se saurait, Philippe. Ça se saurait.
Non, mais je suis très contente que vous le disiez parce que j'étais un peu timorée par rapport à ça. Je crois même que j'ai parlé de vous dans Le Secret des Performances.
Exactement,
pas sûre, mais
dans Le Secret des Performances. Ouais. Ouais.
Parce que le fait d'avoir, grâce à vous, découvert la lecture rapide, ça a déclenché chez moi tout ce qui a suivi sur mon modèle de l'intelligence. Parce que vraiment, cette pensée rapide, je sentais qu'il y avait un truc autour de la pensée rapide, dans cet éloge de la lenteur qu'on nous fait tout le temps aujourd'hui. Je sentais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Et grâce à votre approche, je pense que vraiment, j'ai tenu quelque chose à ce moment-là. Et en plus, je conseille toujours d'apprendre la lecture rapide pour rendre plus rapide de la pensée, justement pour aller de plus en plus vers son intuition, être au corps à corps avec la réalité. Je pense que plus on développe la lecture rapide et d'autres choses qu'on va faire rapidement, marcher par exemple, et plus on développe son intuition.
Et est-ce qu'on pourrait apprendre, Fanny, la lecture rapide sous hypnose ?
Bonne question. Probablement que ça aiderait. C'est tout à fait possible. Alors après, je pense que là où ça peut créer une sorte de conflit cognitif, comme on dit aujourd'hui, c'est que l'hypnose, dans l'hypnose, il y a quand même un rythme plus lent. Et apprendre la lecture rapide avec ce rythme plus lent, faudrait tester.
On va mettre en place une étude, Philippe. Voilà.
Mais oui.
Donc on ira le faire à Lyon.
On fait un appel à la radio. Toutes les jeunes filles de 18 à 25 ans et les jeunes garçons de 18 à 25 ans. Vous avez vu, Philippe, immédiatement, dès que j'ai dit que j'ai commencé par les filles qui étaient de la galanterie, vous m'avez prêté une mauvaise opinion. Et ça me blesse, Philippe. Ça me blesse profondément. C'était de la galanterie.
Ne regardez pas ce qu'il y a
dans
ma tête.
Et vous avez vu immédiatement quelque chose. Donc, des jeunes filles de 18 à 25 ans et des jeunes garçons de 18 à 25 ans, postulez, envoyez un CV à Beurre FM et on va faire une grosse étude d'hypnose sur la lecture rapide. Voilà.
Okay.
Voilà. Et vous pouvez lire le nouveau livre de Fanny Nussbaum qui s'appelle Le cerveau sous hypnose, libérez votre intelligence et votre imagination. Merci Fanny.
Merci à vous.
D'avoir été
plaisir.
Là, Steve.
Bombo Clots.
Voilà, et vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez les vidéos sur les chaînes YouTube de Beurre FM et sur la chaîne de By Steve. Très belle journée. Santé sur Beurre FM.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.